Bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Girons dans l'émission féministe La fille à la fenêtre. Et aujourd'hui, c'est La lesbienne à la fenêtre, partie 2. Salut, bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais reprendre le fil de l'émission du mois dernier, donc l'épisode 15, que vous pouvez trouver en ligne depuis aujourd'hui sur le site de radiorageuse.net ou sur le site de la locale, lalocale.ckdevelop.org. Et donc la semaine dernière, j'avais parlé de l'autrice américaine Sarah Horn Jewett. Je l'avais un peu présenté sa vie, présenté le livre d'elle que j'ai lu. Donc elle est née en 1849 et elle est morte en 1909. Donc aujourd'hui, je vais encore lire un texte d'elle. Mais avant, je vais faire une partie historique. Donc Sarah Horn Jewett, en fait, elle a vécu près de 30 ans avec une femme... Une femme qui a perdu son mari. Donc après que Annie Fields elle ait perdu son mari, elles se sont installées ensemble. Et en fait, j'avais envie de partir de là pour retourner là. Et à partir du moment où j'ai découvert, ah bon, ces deux femmes en fait ont vécu ensemble, formant une forme de ménage en fait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle aux États-Unis. En fait, j'avais envie de continuer à tirer des fils pour essayer de comprendre. Comment c'était possible, en fait, ce qui a été un phénomène social à l'époque qu'on a appelé le mariage de Boston. Et donc, tout ça nous emmène autour de la question de l'histoire des lesbiennes. Pour commencer, je voulais dire que ça peut être problématique de plaquer des mots qu'on utilise aujourd'hui comme des identités, comme le mot lesbienne, par exemple, sur des personnes donc dans le passé. Qui nous semble avoir eu des modes de vie similaires, qu'on pourrait qualifier de tels. Donc là, des personnes qu'on pourrait qualifier de lesbiennes. D'autant plus que le mot lesbienne, il est apparu qu'au 19e siècle, apparemment, d'après ce que dit le dictionnaire étymologique. Alors, donc, pour parler d'une personne, d'une femme donc, qui a des relations avec d'autres femmes. Parce que sinon, c'est un mot utilisé pour parler des habitantes de Lesbos. De l'île de Lesbos en Grèce. Et donc, il a été d'abord utilisé apparemment par des hommes et par des médecins, mais en fait, je ne vais pas faire une émission là-dessus, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et il a été revendiqué, utilisé par des lesbiennes pour se qualifier de lesbienne seulement au XXe siècle. Mais bon, donc voilà, les mots utilisés pour qualifier les lesbiennes. Et les mots qu'elles utilisaient elles-mêmes pour se qualifier, ça pourrait être en soi le sujet d'une émission. Alors c'est un peu le problème de l'émission d'aujourd'hui, c'est que je vais parler de plein de trucs, et que chaque truc pourrait être le sujet d'une émission. Enfin, peut-être qu'une autre fois, je prendrai d'autres fils pour les tirer. J'espère que j'aurai l'occasion de faire ça. Moi, je voulais donner une définition politique du mot lesbienne, que je veux utiliser pour réfléchir dans un cadre historique. Et donc, celles que j'appelle les lesbiennes, là, dans cette émission, c'est des femmes ou des personnes assignées femmes à la naissance qui ne dépendent pas matériellement d'un homme, qui ne servent pas un homme, que ce soit sexuellement, matériellement ou psychologiquement, mais dont les rapports les plus étroits sont avec d'autres femmes ou d'autres personnes nées assignées femmes. Et donc, on notera, c'est une définition qui inclut pas forcément de pratiques sexuelles. Donc, je vais parler de personnes qui, avant l'affirmation politique des lesbiennes en tant qu'identité au XXe siècle, ont eu, selon moi, des modes de vie qu'on pourrait qualifier de lesbiens. Je voulais commencer aussi par une petite citation de Adrienne Rich, qui est une poétesse féministe et lesbienne états-unienne. Qui, dans les années 70, a écrit un article qui s'appelle « Ce qu'il nous faut pour œuvrer ». Dans cet article, elle dit « Les relations entre les femmes ont été niées ou négligées en tant que force agissant dans l'histoire ». Et ben c'est une phrase qui me parle beaucoup. Et pour moi, c'est ce que j'essaye de faire là, c'est une entreprise de rendre visibles des choses qui ont été invisibilisées, quoi. Vous pouvez lire cet article d'Adrienne Rich dans un livre qui s'appelle « La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne », qui a été publié en français aux éditions Mama Mélis. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre. En faisant mes recherches autour de l'histoire des lesbiennes, je vois, il y a une chose qui m'est apparue aussi, c'est que donc il y a des chercheuses féministes occidentales, parce que là je vais vraiment parler de personnes qui ont vécu en France, en Angleterre, aux États-Unis, et me baser sur des travaux principalement américains en fait, parce que sinon il y a vraiment très peu de choses. Et donc je vois que tout cet effort qui a été fourni par des chercheuses féministes occidentales depuis les années 70 pour écrire l'histoire des lesbiennes, pour visibiliser la lesbianité, alors je mets des grosses guillemets, ce mot n'existe pas vraiment, de certaines autrices, comme Willa Cather par exemple, qui était une amie de Sarah Horn Jewett, que cette démarche-là, elle a aussi été évidemment beaucoup critiquée dans le monde universitaire, par d'autres chercheurs qui souvent n'étaient pas féministes, qui eux étaient hétérosexuels, etc., en disant « oui, non mais telle femme, c'est une autrice avant tout », bon, ils ne disent pas « autrice », ils disent « auteur », etc. Après, c'est sûr qu'il y a des démarches qui peuvent être problématiques, comme par exemple exhumer la vie privée d'une personne qui a tout fait pour la protéger sa vie durant, publier des lettres alors qu'elle refusait qu'on les publie. Mais ça, en fait, c'est tous les chercheurs font ça, qu'ils soient LGBT ou hétéros, en fait. Et on peut aussi dire que c'est problématique d'éditer ces lettres en les expurgeant de passages qui parlent d'amour entre femmes, en fait. Bon, tout ça pour dire que cette démarche, pour moi, c'est une action politique de visibiliser la solidarité, l'amitié, l'amour entre les femmes dans l'histoire. En fait, il n'est pas question d'enfermer des personnes dans des catégories figées qui ont existé bien après elles, mais il s'agit aussi de montrer que l'histoire a été hétérosexualisée à partir du XIXe siècle. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été réécrite par des chercheurs, hommes hétéros pour la plupart, qui ont visibilisé un nombre de choses ahurissantes. Et pour moi, cette démarche, c'est aussi moi-même, en tant que féministe et que Gwyn, aller à l'encontre d'un modèle dans lequel une grande majorité de femmes et de personnes assignées femmes doivent grandir dans notre société, c'est-à-dire un modèle dans lequel il faut passer par le regard des hommes pour avoir de la valeur, un modèle dans lequel il faut passer par le regard des hommes pour exister. Même si, pour certaines des femmes qu'on lesbianise, entre guillemets, après coup, on ne sait pas si elles ont vraiment eu des rapports sexuels avec d'autres femmes, elles ont vraiment vécu pour d'autres femmes, en fait. Elles ne sont pas mariées, elles ont... Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très fort d'un point de vue féministe, de se rendre compte que toutes ces personnes ont existé, alors qu'on ne savait pas qu'elles existaient. Voilà, alors, donc, c'est une démarche qui part de ce constat-là. Les lesbiennes ne semblent pas exister dans l'histoire. On dirait presque même qu'elles sont sorties, qu'elles sont une manifestation de la modernité, qu'elles sont apparues avec l'époque moderne, ou même qu'elles seraient apparues dans les années 70, comme tirées d'un chapeau avec le MLF. C'est presque ce que voudrait nous faire croire notre société, tellement elle est hétérocentrée. Et l'homophobie intégrée avec laquelle on doit grandir, souvent, eh ben elle nous empêche aussi de voir qu'en fait, plein de femmes qu'on nous présente comme des personnages célèbres aussi étaient des lesbiennes. Et à partir de ce premier constat, ma première hypothèse, ça a été en fait, les lesbiennes, elles étaient tellement réprimées qu'elles n'ont pas vraiment pu exister, sauf à partir des années 60-70, quoi. Jusque-là, c'était pas possible de vivre une vie de lesbienne, mettons. C'est une hypothèse. Comme si, en fait, il y avait eu Sappho sur l'île de Lesbos, et puis après, tout le monde aurait été au placard pendant 2 ou 3 000 ans, et puis maintenant, voilà, c'est bon. Donc évidemment, je caricature complètement. Donc à partir du moment où on commence à gratter un peu, on peut trouver par exemple le milieu artistique bohème franco-anglo-américain des années 20. Donc il y avait des femmes comme Nathalie Clifford Barnett, Renée Vivien, il y a aussi Colette. D'elle, on peut entendre parler assez facilement. Apparemment, à cette époque-là, ça se vivait plutôt bien, c'était pas problématique. Alors là, on parle d'un micro-milieu, on parle d'un milieu d'artistes, d'écrivaines, de gens qui vivent aussi un peu à la marge de la société. Bon, je veux dire, on peut aussi, on sait aussi vite que Virginia Woolf a aimé des femmes. Mais en fait, tout ça, ça concerne une micro-période de l'histoire, une micro-catégorie de personnes. Qu'est-ce qu'il en est du commun des mortels le hein ? En cherchant, en creusant, en lisant, finalement, mon hypothèse, elle a changé. J'ai trouvé un livre en anglais sur Internet dont je parlais le mois dernier, qui s'appelle « Surpassing the Love of Men », donc « Dépasser l'amour des hommes ». C'est un livre d'une historienne lesbienne américaine qui s'appelle Lillian Faderman. Puis après, il y a d'autres livres que je n'ai pas lus qui sont encore sur ma table de nuit. Et donc, la vision simpliste que j'avais de l'histoire des lesbiennes, donc planquée et réprimée depuis la nuit des temps, en gros, elle a commencé à bouger un peu sérieusement. Et donc, aujourd'hui, je vais faire une première histoire rapide des lesbiennes. Je vais tirer plein de fils dans tous les sens. Et j'espère que j'aurai l'occasion par la suite de revenir sur certains de ces fils, d'aller plus en profondeur. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à comprendre, donc de manière un peu plus détaillée que l'émission précédente, quelles conditions sociales ont fait qu'il était possible pour Sarah Ann Jewett de vivre bien tranquillement son mariage à la bostonienne, comme on disait ça, avec Annie Fields. Et après aussi, comment la vision de cette relation-là, elle évolue dans le temps, après sa mort. Un des points que j'aimerais creuser dans une autre émission, c'est la question des lesbiennes masculines ou des femmes travesties en hommes. Mais bon, on verra si on aura l'occasion de faire ça. Stranger, when you look at me, I'm strong as steel, light as day, born a mystery. You're the
dream of
Vous êtes toujours sur la locale, 97.3 à Saint-Giron, dans La fille à la fenêtre. Alors pour la suite, je vais me baser sur le livre de Liliane Faderman, donc qui n'existe pas en français, qui s'appelle Surpassing the Love of Men. Alors comme il n'y a pas d'infos sur les lesbiennes, vraiment très peu, on est aussi obligé de parler des hommes hein, qui écrivent sur les femmes. Du coup, il y a Brantôme, qui est un écrivain français du XVIe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Dames Galantes, dans lequel il parle de la culture, de l'amour et de la sexualité de son époque, en gros. Lui, il parle de l'amour entre femmes, au XVIe siècle, donc. Il appelle ça « donna con donna », donc en italien, ça veut dire « une femme avec une femme ». Il ne considère pas que c'est anormal, ni même que ça soit pathologique, qu'une femme soit attirée sexuellement par une autre femme. Il dit même que certains maris préfèrent que leurs épouses couchent avec des femmes plutôt qu'avec des hommes, car ça ne met pas la lignée en danger. Donc on voit que c'est vraiment la question de la transmission de l'héritage qui intéresse surtout les hommes. Et en fait, cette vision-là, le fait que les hommes considèrent que ça ne les met pas en danger, c'est globalement une ambiance qui va prédominer jusqu'au XIXe siècle. Alors, dans certaines mesures, on va voir. Les hommes ne considèrent pas que la sexualité entre femmes soit dangereuse pour eux, parce que c'est une sexualité qui n'est pas procréative. Et en fait, c'est une sexualité sans pénis. Alors pour eux, parce qu'ils ont une vision très limitée aussi de la sexualité entre femmes. Pour eux, la vraie sexualité, c'est la sexualité avec un pénis. Au XVIe et au XVIIe siècle, de ce que Faderman trouve comme trace dans la littérature masculine, il tolère cette sexualité-là, il s'en amuse même. Il la considère comme un préliminaire, comme un exercice avant la vraie sexualité qui serait la sexualité avec un pénis. Et Brantôme connaît même l'existence et l'utilisation par des femmes du Godemichet. Mais en fait, il considère ça comme un truc à part aussi et ça ne met pas en danger ni l'institution du mariage, ni le pouvoir des hommes, etc. Au XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle, c'est le fameux siècle des Lumières, n'est-ce pas ? C'est aussi le siècle du début de la révolution industrielle, de l'essor du capitalisme, de l'accumulation des richesses sur le dos des prolétaires, des femmes, des personnes racisées, esclavagisées. Au XVIIIe siècle, les femmes de la bourgeoisie sont de plus en plus acculées à un rôle de potiche, quoi. Là, on parle bien des femmes de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, Brantôme parle aussi des femmes des classes supérieures. Elles doivent devenir des faire-valoir pour leurs époux qui veulent rivaliser avec l'aristocratie. Donc si au XVIe siècle, en France, parce que là donc, on a l'exemple de Brantôme, on considérait les femmes comme des êtres sexuels, au XVIIIe siècle, plus du tout. Enfin, de moins en moins. Après, c'est beaucoup plus fort en Angleterre qu'en France, mais c'est quand même des tendances qui apparemment, dans cette zone géographique-là, se suivent pas mal, quoi. Et du coup, ce qu'elle pense Faderman, alors après, moi, je suis un peu liée à son avis, mais je pense que tout ça est assez intéressant, mais mérite aussi d'être questionné. Elle dit que la plupart des femmes ont intégré qu'elles étaient asexuelles. Donc, on parle toujours des femmes de la bourgeoisie, des classes supérieures. En fait, ça fait des années et des années et des années, à cette époque-là, qu'elles ont intégré qu'elles n'ont pas de désir sexuel. En plus, depuis la Renaissance et la redécouverte du philosophe Platon, l'amour platonique est ultra valorisé dans les classes supérieures, notamment en Angleterre. Les femmes de la bourgeoisie et de l'aristocratie, à cette époque-là, elles grandissent de plus en plus séparées des hommes. Il y a des autrices qui parlent du fait que de la non-mixité en fait, qui règne, les hommes et les femmes sont strictement séparés. Et donc, en fait, les jeunes filles apprennent que l'amitié parfaite, selon les idéaux de Platon, elle est supérieure à l'amour sexuel. Et qu'en fait, bon, le mariage, c'est bien quelque chose par lequel il faut passer, mais en fait, on peut la seule personne en qui on peut avoir vraiment confiance. Les hommes raisonnent aussi comme ça. En fait, c'est une personne du même sexe. Les personnes de l'autre sexe, en fait, apparemment, il y a vraiment une culture très forte qui dit qu'on peut pas se comprendre entre sexes. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, se développe beaucoup. On trouve beaucoup de traces dans la littérature, dans les lettres, dans les journaux. De ce qu'on appelait les « romantic friendships », les amitiés romantiques. Alors, c'était Montaigne en parlait de son amitié à La Boétie, qui était un autre écrivain de son époque, qui considérait comme étant beaucoup plus forte et que n'importe quelle relation qu'il aurait pu avoir avec une femme. Et donc, ça se développe beaucoup entre jeunes filles et entre femmes. Et Liliane Faderman, elle donne des tonnes d'exemples de ce truc-là, mais vraiment des tonnes. Et malheureusement, bon, moi, j'en ai pas parce que c'est en anglais. Alors, moi, je peux essayer de traduire de l'anglais du XXe siècle, mais traduire à l'arrache de l'anglais du XVIIIe siècle, ça commence à devenir un peu compliqué. Du coup, malheureusement, j'ai pas d'exemple. Mais elle a vraiment... elle cite des tonnes de romans qui sont pas traduits. Elle parle aussi de correspondances entre femmes françaises. Donc, ça a l'air d'être un phénomène vraiment massif dans les classes supérieures. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui crée des conditions sociales qui font qu'un mode de vie tel que le mariage de Boston dans des États-Unis très proches de l'Europe à la fin du 19e siècle est possible, quoi. En fait, ce qu'elle dit, Liliane Faderman, c'est que les hommes considèrent, et la société en général considère que ces amitiés-là sont puériles, des trucs de gamines, enfin bon, tout le traitement habituel que les hommes peuvent donner à des choses que les femmes font entre elles. Mais elle dit que qu'en lisant les écrits, tout porte à croire que pour beaucoup de femmes, c'était des relations très sérieuses. Et donc, il y a beaucoup d'exemples de sacrifices ou de textes qui disent que la vie de l'ami, eux, est la chose la plus importante au monde, aux yeux de la personne qui écrit, etc. Le fait que deux femmes aient des rapports complètement passionnels était vraiment accepté à cette époque-là, et donc ça a même permis à certaines femmes de s'enfuir ensemble pour vivre ensemble toute leur vie. Alors, il y a un exemple au XVIIIe siècle qui est celui des Dames de Langolen, qui étaient anglo-irlandaises. Donc, il existe un livre à leur sujet, mais je ne l'ai pas lu. Bon, bien sûr, ça impliquait que ces femmes aient des revenus suffisamment importants pour être indépendantes financièrement, sans travailler, parce que les femmes de la haute société n'avaient pas le droit de travailler. Les femmes des classes populaires, elles, bon, elles étaient vraiment de plus en plus cantonnées à des travaux de plus en plus restreints. Donc on peut considérer que le fait que deux femmes s'enfuient ensemble au XVIIIe siècle, c'était un cas vraiment rare, mais sinon, les amitiés romantiques entre femmes, donc... Était très encouragée, même parce que pour les familles, avant le mariage, ça faisait qu'il n'y avait pas de risque d'enlèvement ou de séduction par un homme. Et c'était une société qui plaçait la virginité au-dessus de tout. Donc on considérait même que ça donnait des expériences aux jeunes filles avant le mariage. Et donc on laisse des filles avoir des intimités très très proches, avoir des gestes les unes pour l'autre vraiment d'intimité très forte, et les hommes trouvent pas ça dangereux, et après a posteriori les historiens ils en parlent comme si c'était de simples amitiés d'écolières. Selon Faderman, la littérature écrite par ces femmes montre qu'en fait il y en a plein qui sont vraiment amoureuses. Après, elle dit que, selon elle, la plupart de ces femmes ont réprimé leur désir sexuel, même de manière complètement inconsciente. Mais donc, comme je le disais, mais qu'il leur était possible d'avoir les unes pour les autres des marques d'affection physique, en public ou pas en public. Il y a par exemple le bouquin de Rousseau, La Nouvelle Héloïse, où il parle de deux filles qui s'embrassent, etc. En fait, des marques d'intimité que des femmes hétérosexuelles aujourd'hui auraient honte d'avoir les unes pour les autres, des choses qui maintenant seraient lues en fait comme lesbiennes. Et donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un exemple aussi de montrer comment la norme sexuelle, elle bouge énormément selon les sociétés et les époques, et pas forcément dans le sens qu'on pense en fait. Bon, alors donc on ne sait pas ce que ces femmes faisaient ensemble dans leur lit, mais en fait, tant qu'elles restaient dans un rôle féminin, c'est-à-dire porter le vêtement féminin, accepter le rôle social de femme, avoir une sexualité avec des hommes à un moment, donc avoir une amitié particulière avant le mariage ou alors une fois qu'on est veuve, tant qu'on acceptait la reproduction de mariage, etc., c'était possible d'avoir, à des moments de la vie, de montrer sa forte préférence pour une autre femme. Donc ça ne posait pas de problème à la société. Mais à partir du XVIIe siècle, donc où les femmes, on l'a vu, sont de plus en plus construites comme des êtres sans désir sexuel, une femme peut avoir une amitié très forte avec une autre femme, passionnelle, etc. Mais une femme qui a une sexualité avec une autre femme va être considérée comme un monstre, alors qu'à l'époque de Brantôme, ça ne l'était pas. C'était considéré comme s'amuser ensemble, etc. Mais en fait, la répression, elle va seulement frapper une certaine catégorie de personnes, qui est en fait des personnes qui choisissaient de se travestir en homme, de vivre, parfois même de vivre toute leur vie en homme, on l'a vu avec l'exemple du cavalier russe dans l'épisode 13, mais en fait le cavalier russe, il a pas de relation avec une femme, et en fait après c'est en Russie, donc bon, on sait pas trop non plus c'était quoi la répression sexuelle à l'époque en Russie. Mais en tout cas, là, dans les pays qui nous intéressent, en France, en Angleterre, aux États-Unis, les exemples qu'il y a, c'est qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, les femmes qui sont travesties, qui passent pour des hommes, font des métiers d'hommes et se épousent des femmes, parce qu'en fait, il y a plein d'exemples de femmes qui se marient alors que l'une passe pour un homme. Et ben, ces femmes-là, quand elles sont découvertes, Les femmes travesties, il y a toute une période où elles encourent systématiquement la peine de mort. Et en fait, il suffit pas de s'être travestie, il faut vraiment qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait le fait de s'être travestie et de s'être mariée, d'avoir fait un espèce de faux mariage. Enfin, en fait, c'était des vrais mariages, mais qu'on découvre en fait qu'il y a usurpation du rôle masculin, en fait. J'espère que j'aurai l'occasion de parler de ça plus longuement à une autre émission. Et j'ai l'impression que dans ce truc-là, il y a aussi une question de classe, parce que je me dis que finalement, pour deux femmes pour passer, pour pouvoir vivre vraiment ensemble, quand on vient d'un milieu plus pauvre, bah en fait il faut de l'argent et donc il faut pouvoir accéder à un métier masculin en fait. Bref, tout ça c'est des questions que j'ai envie de creuser, j'ai envie d'essayer de trouver d'autres infos là-dessus. Mais donc c'est quand même marrant, c'est pas du tout marrant, mais c'est intéressant de voir que les hommes se sentent moins mis en danger par uniquement la sexualité entre femmes que par la perturbation des rôles de genre par les femmes. Et puis après, il y a aussi des évocations des hommes efféminés qui, eux, étaient aussi, bien sûr, très réprimés. Donc le fait qu'à la fin du XIXe siècle, Sarah Ann Jewett puisse vivre plusieurs dizaines d'années avec une femme dans la même maison, que cette relation elle ait un nom, le mariage de Boston, qui soit accepté dans son milieu social, pour moi, c'est quelque chose qui découle de ce qu'on a commencé à évoquer précédemment, donc le fait qu'il y ait qu'une certaine forme de relation asexuée mais passionnelle entre femmes, enfin considérée comme asexuée, était possible pendant toute une période. Et après, au tournant du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, pardon, donc le passage du 19e au 20e siècle, arrive la psychanalyse. Au XIXe siècle, il y a des médecins qui ont commencé à réfléchir à la sexualité. Il y a l'apparition de sciences de la sexualité. Et donc, ils vont commencer à créer des normes. Évidemment, en même temps qu'ils créent une norme, ils créent toute une série de déviances, dont ils vont dire qu'elles ne sont plus la norme. Bon, tout ça, ce n'est pas non plus le sujet de cette émission. Mais il en découle que dans les années 20, pour donner un exemple, au moment de publier les lettres entre Sarah Ann Jewett et Annie Fields, l'éditrice, la personne qui est dépositée des lettres, et Helen Ho, elle va les censurer. Parce qu'en fait, depuis Freud, on ne pense plus que les femmes sont asexuées, on pense qu'elles ont une sexualité. Mais leur sexualité doit vraiment être contenue dans une norme. Elles doivent avoir une sexualité contenue, pas débordante, et surtout, elles doivent avoir une sexualité hétérosexuelle. Et donc, ce que Sarah écrivait à Annie devient trop fort, ne peut plus être toléré. Alors qu'à l'époque de Sarah, c'était possible, sans penser à mal. Et même avant, en fait, et puis donc ça concerne les amitiés romantiques dont on parle avant. De la même manière, la nièce d'Emily Dickinson, donc on a fait une émission sur... j'ai fait une émission sur Emily Dickinson l'année dernière, c'est l'épisode 7, je crois. La nièce d'Emily Dickinson, Martha Dickinson Bianchi, au moment de publier les lettres d'Emily Dickinson à sa belle-sœur Sue Gilbert dans les années 20, au moment de les publier dans les années 20, elle les a expurgées. Donc ça veut dire que la manière dont la société voyait l'amour entre femmes était radicalement différente et qu'en fait la situation s'était dégradée entre le 19e et le 20e siècle. Ce qui n'est pas ce qu'on a tendance à penser d'habitude en fait. Donc la sexualité entre femmes avant le début du 20e siècle, elle a été niée car considérée comme inexistante. Et puis après, elle a été pathologisée et invisibilisée car considérée comme anormale. Voilà, donc je voudrais finir tout ce blablabla par quelque chose qui me semble significatif concernant l'histoire des lesbiennes, les traces et la culture commune qu'on arrive à se fabriquer. Donc Sarah Ann Jewett, dans un roman qu'elle a écrit en 1877, qui s'appelle Deep Haven, c'est un roman qui n'est pas traduit en français, donc je ne l'ai pas lu. Apparemment, elle dépeint une amitié romantique entre deux jeunes femmes, dans un village côtier de Nouvelle-Angleterre. Et donc, à la fin de l'été qu'elles ont passé ensemble, l'une des deux femmes dit à l'autre qu'elle devrait copier les dames de Langolaine et s'installer de manière permanente à Deep Haven, loin des distractions de Boston. Bon, elle ne mène pas ce projet à bien, mais en fait, ça veut dire qu'il y a une référence. Il y a une référence dans la littérature de la fin du 19e siècle à quelque chose qui a eu lieu 75 ou 100 ans auparavant. Et ça montre donc que Sarah Anjouette connaissait l'histoire des Dames de Langolaine, de Eleanor Butler et Sarah Ponsonby, qui, au tournant du 18e et du 19e siècle, ont vécu ensemble pendant des années en Angleterre. Et c'est quand même hyper fort de se dire qu'à cette époque-là, toutes ces femmes, c'est lesbiennes, donc elles ont une culture commune. Elles ont une culture qui n'a pas été effacée en un siècle. Et moi, je me pose la question, mais quel effort a dû faire Jouette pour trouver ces traces-là? Est-ce qu'elle a cherché des exemples de femmes qui vivaient ensemble comme elle? Ou est-ce que c'était des exemples qui étaient là, qui étaient dans l'air du temps, qu'on lui avait appris, qu'elle connaissait, qui n'avaient pas été censurés? Est-ce qu'elle n'a eu qu'à les saisir? Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile de savoir, parce que de toute manière, aujourd'hui, on n'a plus la même lecture des choses. Comment savoir quel a été l'effort qu'elle a fourni? Quelle conscience elle avait de ça? Et oui, par rapport à l'effort qu'on doit fournir aujourd'hui, qui est énorme en fait, en tant que lesbienne, pour se réapproprier les traces de ce passé. Et donc tout ça, ça fait supposer qu'au tournant du XXe siècle, l'invention donc, de l'homosexualité en tant que pathologie a accéléré l'invisibilisation de cette culture commune des lesbiennes, de femmes qui aimaient des femmes, qui vivaient avec des femmes, qui se solidarisaient avec des femmes.
Beside the rolling sea, just you and me, not a cloud in the sky, just a seagull flying by. Ooh, mon chéri, see how nice it feels to be out strolling with the one you love. Plain to see, I'm for you, you're for me. God intended this to be. From a lonely room to a seventh heaven, love in bloom, we could paint our the sky. Oh, you and I, loving life, watch the world go by with you. Oh, Rosie, now ain't it Rosie, Rosie, bless your heart. Come live with me, oh, mon chéri. From a lonely room, oh, to a seventh heaven, love in bloom, we could paint our names off up in the sky, you and I, loving life, watch the world go by with you. Ooh.
Donc à la fin du 19e siècle, Sarah Anjouet écrit des histoires qui ne disent pas aux femmes comment se comporter selon la morale du siècle, ni comment se comporter pour trouver l'amour hétérosexuel et arriver au mariage. Aujourd'hui, on va lire un extrait d'une nouvelle qui s'appelle « Le héron blanc » et une autre nouvelle qui est très courte, on va la lire en entier, qui s'appelle « Impression d'une rôdeuse de nuit ». Alors, on va lire ces textes dans une traduction de 1890. C'est une traduction qui a été faite par Thérèse Blanc-Benson, qui est une femme de lettres française que Sarah Anjouet avait rencontrée lors d'un voyage en France. C'est possible de se procurer ce livre. En fait, c'est les éditions Hachette et la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui numérisent des vieux bouquins, donc des bouquins du siècle avant-dernier, en fait. Le siècle dernier, c'est le XXe siècle. Et ensuite, ils sont imprimés à la demande. Alors, c'est un peu cher, ça coûte une vingtaine d'euros. C'est possible de trouver ça sur Internet. C'est aussi de trouver ça en occasion, des fois un peu moins cher. Et donc, en fait, c'est comme des photocopies du bouquin du 19e, quoi. Donc j'ai réussi à me procurer ça. Et donc cette traduction est quand même assez... c'est assez daté, ça fait un effet un peu... on n'a pas trop l'habitude, vous allez voir. Donc je vais commencer par lire la fin du Héron Blanc. Donc le début de l'histoire du Héron Blanc, c'est une petite fille qui habite avec sa tante ou sa grand-mère, je ne sais plus... dans la forêt, et elles ont une vache, et elles n'ont pas d'argent, et il y a un chasseur qui arrive, et le chasseur, il chasse des beaux oiseaux. Et du coup, il arrive, et il promet de l'argent à la petite fille, et en même temps, c'est son premier vrai rapport avec un homme, alors elle est un peu fascinée. Et un matin, elle se réveille. Voilà, et donc le chasseur a passé la nuit chez eux, et il leur a promis plein d'argent si elle l'aide à trouver le héron blanc. À un demi-mille de la ferme, sur la lisière des bois, là où le terrain est le plus haut, un grand pin se dressait, dernier représentant de sa génération. L'avait-on laissé debout pour marquer une limite ou pour quelque autre raison ? Nul n'aurait pu le dire. Les bûcherons qui avaient abattu ses pareils étaient morts depuis longtemps, et une forêt nouvelle d'arbres vigoureux, érables, pins et chênes, avait poussé à la place de la forêt disparue. Mais la tête majestueuse de ce vieux pin dominait tout le reste et servait de point de reconnaissance à la ronde. Sylvie avait toujours cru que quiconque pourrait grimper jusqu'au faîte découvrirait l'océan. Et souvent, une main appuyée au grand tronc rugueux, elle avait regardé d'en bas dans ses branches sombres, sans cesse agitées par le vent, si chaud et si tranquille que fut l'air au-dessous. Maintenant, la petite fille pensait à l'arbre avec une nouvelle émotion. En y montant au point du jour, ne verrait-on pas de là le monde entier ? Par conséquent, l'endroit d'où s'envolait le héron blanc ? Il serait facile ensuite de trouver le nid, si bien caché. Quel esprit d'aventure ! Quelle ambition ardente ! Comme elle se représentait vivement son triomphe et le ravissement qu'elle éprouverait en venant révéler le grand secret. C'en était presque trop pour les forces de ce cœur enfantin. Le jeune chasseur et l'aïeul dormaient profondément, mais les projets de Sylvie la tinrent éveillée. Elle oublia même de songer au sommeil. La courte nuit d'été lui parut longue, comme une nuit d'hiver. Puis elle eut peur que le matin ne vînt trop vite. S'habillant à la hâte, elle se glissa hors de la maison et suivit à travers bois le sentier qui menait au pâturage. Elle atteignit la campagne ouverte au-delà. Les petits cris confus d'un oiseau dont elle avait heurté le perchoir en passant la rassuraient et lui tenaient compagnie. Hélas, le grand flot d'un intérêt humain qui passait pour la première fois sur cette existence monotone allait-il emporter toutes les joies naïves qu'avait jusque-là trouvé Sylvie à vivre cœur à cœur avec la nature ? Avec la forêt muette. L'arbre énorme était là, encore endormi dans le clair de lune expirant, et la folle petite fille rassembla tout son courage pour en atteindre le sommet. Le sang bourdonnait dans ses artères, tout son être frêle frémissait. De ses pieds nus, de ses mains crispées comme des griffes d'oiseaux, elle se cramponnait à l'échelle monstrueuse qui semblait presque toucher le ciel. D'abord, il lui fallut grimper aux chênes qui poussaient à côté. Elle se perdit presque dans la ramure ténébreuse et le feuillage chargé de rosée. Un oiseau s'envola de son nid et un écureuil courant de côté et d'autre s'irrita contre cet intrus inoffensif. Sylvie s'en tira sans trop de peine. Elle était souvent montée jusqu'ici et savait qu'un des rameaux supérieurs du chêne effleurait les branches les plus basses du pin, juste à l'endroit où ses branches poussent très serrées. Quand elle aurait franchi le dangereux passage d'un arbre à l'autre, la grande entreprise commencerait vraiment. Elle se traîna sur le bras fléchissant du chêne et s'élança de là dans le vieux pin. La chose était plus difficile qu'elle ne l'avait pensé. Il fallait se tenir ferme. Les branches sèches l'arrêtaient, la retenaient et l'égratignaient comme des ongles irrités. La résine raidissait ses petits doigts maigres, tandis qu'elle poussait plus haut, toujours plus haut. Les moineaux et les rouges-gorges, dans les bois au-dessous d'elle, commençaient seulement à s'éveiller et à saluer l'aurore. Mais la lumière semblait plus vive en l'air, vers la cime du pin, et l'enfant savait qu'il lui fallait se hâter si elle voulait réussir. L'arbre, cependant, paraissait s'allonger toujours à mesure qu'elle avançait. Il n'en finissait plus. C'était comme un grand mât planté sur la terre voyageuse. Vraiment, ce matin-là, il dut être stupéfait, le colosse, de sentir cette étincelle résolue d'énergie humaine se frayer un chemin sur son inaccessible personne. Qui sait si les dernières branches ne s'affermirent pas pour aider cette légère et faible créature dans son ascension désespérée. Le vieux pin devait aimer ce nouvel hôte inattendu. Le brave cœur palpitant de cette fillette aux yeux gris, tentant toute seule une si rude aventure, était assurément quelque chose de plus que tous les faucons, que toutes les chauves-souris, que tous les papillons de nuit, même que toutes les grives à la voix douce qu'il pouvait connaître. Et il se tenait immobile, le grand arbre sourcilleux, défiant les brises de cette matinée de juin, tandis que l'aube devenait brillante à l'orient. Le visage de Sylvie eût ressemblé lui-même à une étoile pâle, si quelqu'un l'avait vue d'en bas, quand elle se hissa, tremblante et lasse, mais enfin victorieuse, sur le sommet nerveusement embrassé. Oui, c'était bien la mer que le soleil levant faisait étinceler de tous les tons de l'or, et vers cet orient glorieux, deux faucons s'envolaient avec de lents mouvements d'ailes. Comme leur vol paraissait bas, considéré de cette hauteur, eux qu'elles n'avaient jamais vu que pareil à des points noirs sur la voûte bleue du ciel. Leurs plumes grises étaient veloutées comme des ailes de papillons de nuit. Ils passèrent à peu de distance et Sylvie eut presque le sentiment de pouvoir s'envoler, elle aussi, parmi les arbres. À l'ouest, les bois et les fermes couvraient des milles et des milles dans le lointain. Ça et là, il y avait des clochers d'églises et des villages. Vraiment, c'était un monde immense et imposant. Les oiseaux chantaient plus fort. À la fin, le soleil monta, éblouissant dans l'espace. Sylvie voyait les voiles blanches éparses sur la mer, et les nuages, de pourpre tout à l'heure, ou bien dorés et couleur de rose, commencèrent à pâlir. Où pouvait bien être le nid du héron dans un tel océan de verdure ? Cette vue magique, ce spectacle pompeux du monde au-dessous d'elle, devait-il être la seule récompense d'un si grand effort ? Non, regarde encore, Sylvie, là où le marais verdoyant s'enchasse parmi les bouleaux d'argent et les sapins noirs. Tu reverras le héron blanc à l'endroit même où tu l'as aperçu déjà une fois. Regarde, regarde. Une tache neigeuse, semblable à une seule plume flottante, s'élève, sortant du sapin mort. Elle grandit et monte toujours. La voici près de ton abri. Tu reconnais maintenant ce coup d'aile rapide et sûr, ce long cou mince et tendu, cette aigrette. Attends seulement un peu. Ne remue ni pied ni main, petite, que tes deux yeux avides ne décochent pas un trait de lumière trop vif, car le héron s'est perché sur une branche voisine de la tienne, et il appelle sa compagne, restée dans le nid, tout en nettoyant ses plumes, en se faisant beau pour la nouvelle journée. L'enfant exhala un long soupir quelques secondes après, quand, un essaim d'oiseaux babillards ayant envahi l'arbre, le héron solennel, ennuyé de leurs ébats tapageurs, prit le parti de s'en aller. Elle connaissait son secret maintenant, le secret de l'oiseau sauvage qui, svelte et léger, flottait et ondoyait, avant de filer à la fin, comme une flèche, droit à son nid dans le marais. Alors Sylvie, satisfaite, opéra sa descente périlleuse, sans oser regarder au-dessous de la branche où elle se tenait, prête à pleurer quelquefois parce que ses doigts lui faisaient mal et que ses pieds meurtris glissaient. Elle se demandait en même temps ce que l'étranger pourrait bien lui dire et ce qu'il penserait d'elle quand elle le guiderait vers le nid du héron. « Sylvie, Sylvie !» criait la grand-mère affairée. Mais personne ne lui répondait, et la petite couchette était vide, et Sylvie avait disparu. Le chasseur s'éveilla d'un rêve et, se rappelant ses plaisirs de la journée, s'habilla en toute hâte, afin qu'ils puissent recommencer plus tôt. Il était sûr, à la façon dont cette timide petite fille lui avait répondu une fois ou deux la veille, qu'elle avait au moins vu le héron blanc. Et maintenant, il faudrait qu'elle s'expliquât. Sylvie s'approche, plus pâle que jamais, sa vieille robe, bien usée déjà, tout en lambeaux et tachée de résine. La grand-mère et le jeune homme, debout devant la porte ensemble, la questionnent à l'envi, l'un de l'autre. Vraiment, le moment est venu de parler du sapin mort près du marécage. Mais Sylvie ne parle pas après tout. Quoique sa grand-mère la gronde, quoique les bons yeux suppliants du jeune homme plongent droit dans les siens. Il peut les rendre riches, il l'a promis, et elles sont pauvres. Cela ferait en outre tant de plaisir à Sylvie de le rendre heureux. Il attend le récit qu'elle a sur les lèvres. Non, elle se taira. Qu'est-ce qui tout à coup l'arrête et la rend muette? A-t-elle mis en vain 9 ans à grandir, à devenir sage? Le moment arrivé, quand le monde lui tend la main une première fois, repoussera-t-elle cette main amie et secourable, et pourquoi? Pour l'amour d'un oiseau. C'est ainsi cependant. Le murmure des branches du vieux pin est dans son oreille, et elle se rappelle comment le héron blanc est venu, volant à travers l'atmosphère toute dorée, comment ils ont contemplé ensemble la mer et le matin. Non, Sylvie ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire le secret du héron et livrer sa vie. Sainte loyauté. Celle qui la pratiqua ainsi souffrit une angoisse poignante quand l'hôte s'en alla désappointé un peu plus tard. Hélas! Elle l'eût volontiers suivi, et servi, et aimé, comme sait aimer un chien fidèle. Longtemps, Sylvie entendit l'écho de son sifflet qui, tel qu'un bruit fantastique, hantait le sentier du pâturage lorsqu'elle ramenait sa vache errante et rebelle. Même elle oubliait maintenant le chagrin que lui avait causé chacun des coups de fusil qui faisaient tomber à terre, silencieux, la plume humide et tachée de sang, les grives, les moineaux interrompus dans leur chanson. Les oiseaux étaient-ils pour elle de meilleurs amis que le chasseur n'aurait pu le devenir? Qui sait? Mais quelques trésors qu'elle ait perdus, forêt paisible, longue journée d'été, souvenez-vous. Apportez vos dons et grâces et dites tous vos secrets à cet enfant solitaire.
Darkness in the sleeping.
Vous êtes toujours sur la locale, 97.3 à Saint-Girons, dans l'émission La fille à la fenêtre. Et là, on va lire une autre nouvelle de Sarah Andjouet qui s'appelle Impression d'une rôdeuse de nuit. Les rôdeurs de nuit ont d'ordinaire quelques mauvaises intentions. Je diffère d'eux sur ce point. Comme eux, du reste, je m'échappais furtivement, craignant d'être surprise et rasant les murs. Oui, je m'échappais ainsi qu'un malfaiteur de certaines maisons d'où il me fut facile de sortir sans l'aide de fausses clés, car cette maison était la mienne. N'ayant pu m'endormir, je m'étais levée, lasse d'une si longue insomnie, et l'heure où de faibles clartés commencent à paraître du côté de l'Orient, me vit assise auprès de ma fenêtre. Les horloges et les clochers du voisinage sonnèrent 3 coups. Une envie folle me vint alors d'aller épier les préliminaires d'une journée de juin, de voir, avant le soleil lui-même, ce qui se passait en ce monde et d'entendre d'un bout à l'autre les matines des oiseaux. J'avoue que ce détail du culte universel ne m'était que très imparfaitement connu. De temps à autre, un réveil matinal m'avait permis de recueillir quelques fragments de musique, mais à la façon seulement du touriste étranger qui passe par hasard devant le porche d'une cathédrale tandis qu'on y célèbre la messe. Appuyé à mon balcon, je saisis au passage une petite note encore somnolente, partie du fait d'un être à quelque distance. Aussitôt, j'endossai mes habits et préparai ma fuite avec précaution, car tous les miens ont le sommeil léger. Je descendis l'escalier en me rappelant, non sans effroi, qu'une des marches était susceptible de craquer quelque peu. Bref, je ne respirais que lorsque je me trouvais dehors, dans le jardin. Ténèbres profondes sous les grands arbres. Les ombres alarmées semblaient y flotter, en se demandant de quel côté il leur faudrait se réfugier désormais. Une chauve-souris m'effleura soudain, et je tressaillis. De toutes les créatures, la chauve-souris est la plus effrayante, la plus surnaturelle. On dirait à son approche le frôlement du manteau d'un spectre. Voltigeant, effarée, à la fin du jour, elle semble inoffensive et maladroite. Ses allures d'aveugle n'ont aucun prestige. Mais la nuit, elle devient étrangement mystérieuse, les puissances des ténèbres s'incarnent en sa personne. Cependant, la blanche lumière du ciel lointain blanchissait davantage encore. À travers le mince feuillage d'un saule, elle paraissait moins solennelle. Une petite lune pâlissante me regardait entre les branches souples qu'agitait la brise. Le parfum des fleurs vint jusqu'à moi, et longtemps, j'errai dans les allées du jardin, vraiment émerveillée de leur beauté insolite. Les roses étaient toutes épanouies. Bientôt, j'en pus vaguement discerner les nuances. Elles étincelaient de gouttes d'eau, leurs têtes pendaient lourdement, et elles se détournaient comme pour reprendre un somme après que je les avais touchées. Quelques-unes des autres fleurs, en revanche, étaient bien éveillées. Nul ne connaît la grâce des pétunias qui ne les a pas observées le soir et à l'aube. C'est quand la rosée tombe que cette plante délicate prodigue, de même que le réséda, ses plus subtiles séductions. Et si d'aventure le chèvrefeuille, presque passé de mode, n'a pas été expulsé du jardin, la symphonie des parfums devient exquise. Les roses, elles, ont besoin du soleil pour déployer tous leurs avantages, quoique, à vrai dire, en respirant de près leur touffe humide, juste la vive impression de leur avoir ravi d'un seul souffle délicieux, interminable, toute leur provision d'odeurs accumulées. Les fleurs blanches semblaient plus blanches dans cette lumière blafarde. Les grands buissons avaient l'air de figures drapées. Tout à coup, je me rappelais, je ne sais pourquoi, certaines promenades dans les allées de Versailles, vers l'époque de la chute des feuilles, quand les jardins du Petit Trianon embaumaient, colorés par l'automne, et qu'un soleil rougeâtre ruisselait à flots sur les terrasses. Le souvenir me hanta soudain des fantômes historiques qui, ce jour-là, devaient, dans le palais désert, rempli d'un pathétique silence, fuir devant les visiteurs indiscrets. De fait, j'évoquais au hasard bien des réminiscences en montant et en descendant les allées de mon jardin, la nuit, au milieu des roses. La nuit. Était-ce encore la nuit ? Non, vraiment, le matin était venu. Assise sur un banc, j'ouvrais l'œil et je prêtais l'oreille à tout ce qui se passait. Un de ces médiocres chanteurs qu'on appelle des pouillots préluda sans enthousiasme. Les moineaux essayèrent de lui rendre du cœur, puis les chardonnerets s'en mêlèrent. C'en était fait des solos. Le grand choral éclata et vint les couvrir. Un certain rouge-gorge, qui s'était posé à l'angle d'un toit où je pouvais l'apercevoir de loin, s'était chargé sans doute de conduire l'orchestre. Il chantait, il s'égosillait, au point que je craignis pour sa vie. Vraiment, on aurait juré qu'avant d'avoir fini, sa petite âme allait s'envoler au paradis des oiseaux. Avait-il donc tant désiré ce jour, qu'il en saluait ainsi l'aurore ? Je souhaitais, moi, de savoir dans un autre monde si mon rouge-gorge avait reçu de cette journée le plaisir qu'il en attendait. Au même instant, je liais connaissance avec un crapaud taciturne qui était sorti précipitamment d'une plate-bande pour aller se camper sur le sable du chemin. Il clignait et il me regardait, comme s'il se fût proposé une installation plus commode sur le banc même que je m'étais permis d'accaparer. Ma présence le gênait, évidemment. Il la trouvait impertinente. Mais c'était un philosophe. Tout en me dévisageant de ses gros yeux ronds, ce crapaud roulait dans son cerveau des théories sur l'incertitude des choses d'ici-bas. Je parierais qu'il vient tous les matins contempler le banc du jardin et réfléchir aux puissances adverses qui contrarient ses ambitions, comme celles d'un grand nombre de créatures. Les couleurs devenaient partout de plus en plus brillantes. Je distinguais la silhouette des arbres et même l'étendue plane de quelques champs lointains. Pourtant, c'était encore une lumière étrange, presque fantastique. Il me semblait regarder les objets à travers une couche d'eau limpide. J'attendais à demi quelque événement extraordinaire, en dehors du cours habituel des choses. Il m'eût été difficile de me reprendre aux idées, aux projets de la veille. J'avais conscience toutefois qu'une de mes amies venait de s'éveiller, qu'à la minute même, cette amie pensait à moi, comme je pensais à elle. C'est ainsi qu'au fond de nos cœurs, la flamme jaillit sur l'autel de l'amitié et que nous avons, quoique seuls, une compagnie humaine en dépit des distances qui n'empêchent pas de mystérieux télégrammes. Je pensais à d'autres amis, eux, mais avec le sentiment non moins net qu'elles dormaient profondément. Une seule était réveillée à cette heure indue. J'entrais dans chacune des chambres évoquées par mon imagination. Je contemplais sur chaque visage les expressions variées du sommeil. Quel sentiment singulier que celui qui nous fait chaque nuit accepter ce sommeil sans question, sans résistance. Que dis-je ? Nous le cherchons, nous le désirons, à peine nous inquiétons-nous de ce qu'il nous apportera. Cette mort passagère est le grand bienfait de Dieu. Rien n'équivaut pour le corps et pour l'âme à l'oubli qui nous rend des forces. Les psaumes le disent d'ailleurs. Ils donnent à ses bien-aimés dans leur sommeil. Comment mille fables et mille légendes n'auraient-elles pas été fondées par le monde enfant sur un pareil mystère ? Et quelle confiance doit donc nous inspirer l'approche du dernier sommeil, puisque, après tout, ceux qui l'ont précédé ont été immanquablement suivis de résurrection, du réveil vivant de chaque matin. Souvent aussi, en présence des gens que terrasse et paralyse la vieillesse, j'ai pensé à une nuit plus longue, à un sommeil plus profond que les autres, nuit et sommeil qui attendent pour se dissiper que la plus brillante des aurores se lève. Les plates-bandes et les corbeilles de mon jardin prennent de l'éclat à mesure que le jour s'éclaircit. Après les avoir vues s'effacer dans les ombres grises de plus d'un crépuscule du soir, je regarde avec délice le voile qui les couvrait se soulever à l'aube. On dirait que la paisible matinée de juin tombe au milieu des préparatifs d'une fête. Des impériales rouges, orgueilleusement alignées sur plusieurs rangs, représentent les soldats de garde. Les oiseaux, deux fois plus nombreux qu'en plein jour, fendent l'air, comme s'ils étaient en retard pour déjeuner et pressés par la pensée d'une multitude de devoirs quotidiens à remplir ensuite. Le choral fait silence maintenant, mais plus d'un chanteur continue à gazouiller sa partie. La prière de tous ne lui suffisant pas, il se recommande personnellement à la bonté qui règle toutes choses. Je suis prise d'un désir croissant de pousser plus loin dans le monde et sortant sur la route, je commence tout de bon ma promenade, avec cette sorte de gêne que nous éprouvons toujours en rompant avec les conventions de l'existence, même d'une façon fort peu criminelle. Les hêtres de l'avenue où nichent les rouges-gorges semblent me sourire, d'un regard à la fois protecteur et surpris. N'est-il pas curieux d'être éveillé ainsi à l'heure où tout le monde repose, et de pouvoir me figurer que tout le mécanisme de la vie est en mouvement pour mon propre usage, à mon seul profit? Cependant, je me sens un peu abandonné. La présence du crapaud m'avait été un soulagement, et le souvenir de mon ami plus encore, et aussi ma très étroite intimité, pendant le concert des oiseaux, avec un coquelicot qui se hâtait de fleurir dès le lever du soleil. Maintenant je suis seul, et à mesure que je m'éloigne de ma demeure, il me semble de plus en plus accaparé, d'une façon égoïste, les biens de tous, frustrer l'humanité de ce qui est fait pour elle. Dans une maison, au bout du chemin, la lampe brûle encore. Sa clarté pâlit graduellement, et je sens mon cœur se serrer. Ainsi, un pauvre être ignore que la nuit est passée, que le jour est venu. On dirait la clarté vacillante d'une lampe d'autel, dont la flamme inextinguible ne peut illuminer cependant ni les ténèbres de la mort, ni celles de la vie. Une faible protestation contre la nuit inévitable et contre ces ombres que la volonté d'aucun homme ne saurait dissiper. Un petit enfant gémit dans une chambre au volet hermétiquement clos. J'entends cette plainte, lassée, comme si la nuit avait été une nuit de souffrance, comme si le matin n'apportait pas de soulagement. Un grand chien dort profondément dans la cour. Il ne s'éveillera pas de longtemps. Je le connais, bonne bête, et je suis tenté de lui dire un mot pour jouir de sa surprise. Mais quelle excuse aurais-je ? Il trouverait ensuite la journée trop longue. Je m'en retourne sans bruit, l'oreille tendue au roucoulement des pigeons, qui ont l'air de vouloir se bercer par ce bruit monotone. Ce sont de fameux dormeurs, les pigeons. Les coqs, d'une humeur tout opposée, envoient les appels perçants de leurs clairons à travers le village, et cette éclatante fanfare rompt tout à coup l'enchantement. C'en est fait des mystères de l'aube. Je me permets une dernière excentricité. Je saute la barrière, au lieu d'ouvrir la porte comme je le ferais à une autre heure, puis je regagne notre maison en courant. Elle est encore plongée dans l'obscurité. On y étouffe après avoir respiré la fraîcheur de la rosée. Je remets les verrous avec soin, je monte l'escalier furtivement, comme je suis descendu. L'Orient s'est revêtu de nuageuses draperies d'or. Quelqu'un dans la chambre voisine exhale un long soupir qui exprime le bien-être. Repoussant derrière ma persienne l'éclat éblouissant du soleil, je me recouche. Et j'entends aussitôt le tic-tac du moulin résonner sur la rivière, les premiers bruits du travail reprendre un peu de tous côtés. Je me dis que nous sommes à demain. Non pas, c'est aujourd'hui. Mais j'ai traversé tout à l'heure ce qui n'était ni aujourd'hui ni hier. Et là-dessus, je m'endors, comme tout le reste du monde, pour m'éveiller à quelque temps de là, aussi étonné, aussi ravi de ma promenade solitaire, que si c'eût été un rêve. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un très bel été. On se retrouve au mois de septembre, toujours sur la locale, 97.3 à Saint-Girons. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Ah oui, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a écouté comme musique. On a écouté dans l'ordre Stranger de Goldfrapp, Rosemary, mon chéri, par Marlena Shaw, Sun in my mouth par Björk, et là, on va écouter Spooky par Dusty Springfield, parce que j'ai découvert il y a très peu de temps qu'elle aussi était lesbienne. Ciao.